Je regardais de nouveau l'heure. Je devais bientôt passer devant la direction pour présenter mes recherches. Soit je verrais mes subventions renouvelées, soit je devrais commencer à restreindre progressivement et la recherche et la thérapie. Pour l'instant, je n'avais pas eu le temps de m'en inquiéter. J'allais au lavabo, me rinçais le visage, restais un moment à m'observer dans le miroir et m'efforçais de sourire avant de quitter la salle de bain. En fermant à clé la porte de mon bureau, je vis une jeune femme s'arrêter dans le couloir, à quelques pas de moi. « Eric Maria Barque ?» Elle avait d'épais cheveux sombres réunis dans un catogan. Elle me sourit et de profondes fossettes se creusèrent sur ses joues. Elle portait une blouse de médecin et un badge d'interne sur la poitrine. « Maya Swartling, » dit-elle en me tendant la main pour me saluer. « Je suis une de vos plus grandes admiratrices. » « Je me demande bien pourquoi ?» dis-je en souriant. Elle avait l'air joyeuse et sentait la jacinthe naine. « J'aimerais participer à votre travail, » dit-elle sans détour. « À mon travail ?» Elle hocha la tête et devint écarlate. « Il le faut, » dit-elle. « C'est tellement passionnant. »« Je suis désolé de ne pas partager votre enthousiasme, mais je ne sais même pas si mes recherches vont continuer, » expliquai-je.
« Comment ça ?»
Mes subventions couvrent juste la fin de l'année. Je pensais à ma réunion imminente et tentais de lui expliquer aimablement « Je suis très heureux que vous vous intéressiez à mon travail et je serais ravi d'en discuter avec vous, mais là j'ai une réunion importante qui… » Maya s'écarta.
« Je suis désolée, » dit-elle. « Mon Dieu, je suis désolée. »
« Nous pourrions en parler en allant vers l'ascenseur, » lui proposai-je en lui lançant un sourire. Elle semblait stressée par la situation. Elle rougit de nouveau et commença à marcher à mes côtés.
« Vous pensez qu'il peut y avoir un problème pour les subventions ?»
demanda-t-elle d'un air inquiet. Dans quelques minutes, j'allais passer devant la direction. Parler d'une recherche, résultat, objectif, programme, pour obtenir de nouvelles subventions. C'était la routine. Mais c'était toujours pour moi un moment pénible, car je savais devoir affronter les nombreux préjugés qui entourent l'hypnose. Non, simplement, la majorité des gens voient dans l'hypnose une science confuse. Dans ce contexte, il est toujours délicat de présenter des résultats peu concluants.
Mais pourtant, lorsqu'on lit tous vos rapports, on voit émerger des schémas incroyables, même s'il est encore trop tôt pour publier quoi que ce soit.
« Vous avez lu tous mes rapports ?» demandai-je sceptique.
« Je dois reconnaître qu'il y en avait beaucoup. »
Nous nous arrêtâmes devant les portes de l'ascenseur. « Que pensez-vous de mes réflexions sur les engrammes ?» lui demandai-je pour la tester.
« Vous voulez dire le passage sur le patient avec une lésion crânienne ?»«
Oui, » répondis-je en m'efforçant de cacher mon étonnement.
« Intéressant, » dit-elle, « le fait que vous alliez à l'encontre des théories sur la structuration de la mémoire dans le cerveau. »«
Vous avez des idées en la matière ?»
Oui, vous devriez approfondir la recherche sur les synapses et vous concentrer sur l'amygdale.
Je suis impressionné, dis-je en appuyant sur le bouton de l'ascenseur.
Il faut absolument que vous obteniez des subventions.
Je sais.
Que se passerait-il s'il rejetait votre demande?
Dans ce cas, j'espère avoir le temps de terminer la thérapie et d'aider les patients à trouver d'autres formes de traitement.
Et votre recherche?
Je haussai les épaules. « Je chercherai peut-être d'autres universités, s'il y en a qui veulent bien de moi. »«
Vous avez des ennemis à la direction ?»«
Je ne pense pas. »
Elle posa doucement sa main sur mon bras et sourit comme pour s'excuser. Elle rougit davantage. « Vous allez obtenir vos subventions, parce que votre travail est pionnier. Ils ne peuvent pas l'ignorer, » dit-elle en me regardant dans les yeux. « Et s'ils ne le voient pas, je vous suivrai dans n'importe quelle autre université. »
Soudain, je me demandais si elle n'était pas en train de flirter avec moi. Il y avait quelque chose dans son obséquiosité, sa voix douce et rauque. Je regardai rapidement sa plaque pour être sûr de son nom. Maya Swartling, interne en médecine.
« Maya, je ne me décourage pas facilement, » dit-elle d'un ton espiègle. Eric Maria Barque. On en reparlera, dis-je au moment où les portes de l'ascenseur s'écartèrent. Maya Swartling sourit, dévoilant ses fossettes. Elle joignit ses deux mains sous le menton, s'inclina bien bas d'un air facétieux et dit d'une voix douce « Saoudi ». Dans l'ascenseur qui m'emmenait chez la directrice, je me surpris à sourire tout seul de ce salut thaïlandais. L'ascenseur s'ouvrit. La porte du bureau n'était pas fermée, mais je frappai avant d'entrer. Annika Lorenzen était assise face aux fenêtres panoramiques et admirait la vue imprenable sur le cimetière Nora et le parc Aga au loin. Son visage ne portait aucun stigmate des deux bouteilles de vin quotidiennes dont elle avait prétendument besoin pour s'endormir. Ses veines étaient régulières et dissimulées sous sa peau de 52 ans. Des rides couraient sur son front et le contour de ses yeux, et la ligne dessinée par son cou et son menton, autrefois si belle et qui lui avait de nombreuses années auparavant valu une deuxième place au concours de Miss Suède, avait vieilli. Simone m'aurait fait la leçon pour ça, pensais-je. Elle aurait immédiatement fait valoir que c'était une technique de domination masculine de rabaisser une femme haut placée en jaugeant son apparence physique. Personne ne parle de la consommation d'alcool des patrons masculins. Personne n'aurait l'idée de commenter le visage flasque d'un patron. Je saluai la directrice et m'installai près d'elle. « Impressionnant, » dis-je. Annika Lorenzen me sourit. Elle était bronzée et svelte, avec des cheveux fins abîmés par les décolorations. Elle ne sentait pas le parfum, plutôt la propreté. Une odeur discrète de savon de luxe l'entourait. « Vous en voulez ?» demanda-t-elle en faisant un geste en direction des quelques bouteilles d'eau minérale. Je secouai la tête et commençai à me demander où se trouvaient les autres membres de la direction. Ils auraient dû être là. Ma montre indiquait que l'heure était passée de 5 minutes. Annika se leva et, comme si elle avait lu dans mes pensées, dit « Ils vont arriver, Eric. C'est la journée du sauna aujourd'hui, vous comprenez ?» Elle afficha un sourire narquois. Un bon moyen pour m'exclure de la réunion. Malin, vous ne trouvez pas ? À cet instant, la porte s'ouvrit, faisant apparaître 5 hommes au visage rouge. Le col de leur costume était humide, leurs cheveux et leur cou encore mouillés. Ils exsudaient la chaleur et l'après-rasage. Ils terminèrent leur conversation sans se presser. « Mais ma recherche va coûter cher, » dit Ronnie Johansson. « Bien entendu !» répondit Svein Holstein d'un air concerné. Mais Bjarne nous racontait qu'ils vont restreindre les budgets, que les gugus de la finance veulent revoir à la baisse toutes les subventions pour les recherches. C'est ce qu'on m'a dit aussi, mais il ne faut pas y prêter attention, dit Holstein à voix basse. La conversation s'éteignit lorsqu'ils entrèrent dans la pièce. Svein Holstein me tendit une main vigoureuse. Ronnie Johansson, le représentant pharmaceutique de la direction, se contenta de me faire un signe discret et s'installa, pendant que le politicien du conseil général, Peder Mellerstedt, me serrait la main. Il m'adressa un sourire. Il était encore essoufflé et je vis qu'il transpirait abondamment. La sueur dégoulinait des racines de ses cheveux. « Et vous, vous transpirez beaucoup ?» me demanda-t-il. « Ma femme déteste, mais je pense que c'est bon pour la santé. C'est forcément bon pour la santé. » Frank Paulson croisa à peine mon regard. Il hocha rapidement la tête avant d'aller se mettre de l'autre côté de la pièce. Après quelques bavardages, Annika frappa doucement dans ses mains et incita l'assemblée à prendre place à la table de réunion. Le sauna leur avait donné soif, et ils ouvrirent aussitôt les bouteilles d'eau minérale placées sur la grande table en plastique jaune clair. J'observai un instant ceux qui avaient le destin de mes recherches entre les mains. C'était étrange. Je regardais les membres du conseil d'administration tout en pensant à mon groupe de patients. Ils étaient enfermés dans ce moment. Leurs souvenirs, expériences et refoulements flottaient comme des volutes de fumée emprisonnées dans une boule de verre. Le joli visage tragique de Charlotte, le corps lourd et triste de Yussi, le sommet du crâne aplati de Marek, son regard vif et craintif, la douceur effacée de Pierre, Lydia, le cliquetis de ses bijoux et ses vêtements imprégnés d'une odeur d'encens, Cybèle et ses perruques, et enfin la névrosée hystérique Eva Blow. Mes patients étaient comme le reflet secret de ces hommes cossus et sûrs d'eux dans leurs beaux costumes. Les membres du conseil d'administration s'installèrent, chuchotèrent, se tortillèrent sur leurs chaises. L'un fit tinter des pièces dans sa poche, un autre se cacha derrière son agenda. Annika leva la tête et arbora un sourire cordial. « Je vous en prie, Eric. »« Ma méthode, commençai-je, ma méthode consiste à traiter des traumatismes psychiques par des séances de thérapie de groupe. »« C'est ce que nous avions cru comprendre, » soupira Ronnie Johansson. Je tentai de résumer ce que j'avais fait jusqu'alors. Mes auditeurs écoutaient d'une oreille. Certains m'observaient, d'autres gardaient les yeux rivés sur la table. « Je dois malheureusement y aller, » dit Rainer Milch au bout d'un moment. Il se leva, serra plusieurs mains, puis sortit. « Vous avez reçu la documentation au préalable, » continuai-je. « C'est assez long, je le sais, mais c'était nécessaire, je ne pouvais pas faire plus court. « Pourquoi ?» demanda Peder Mellersted. « Parce qu'il est un peu trop tôt pour tirer des conclusions, » expliquai-je. « Mais si on se projette dans 2 ans, » dit-il. « C'est difficile à dire, mais je vois des schémas, » répondis-je, sachant pertinemment que je ne devrais pas m'engager sur cette voie. « Des schémas ? Quel genre de schémas ? Vous ne voulez pas nous raconter ce que vous espérez trouver ?» demanda Annika Lorenzen en souriant. « J'espère pouvoir dresser la carte des blocages mentaux qui persistent durant l'hypnose. Établir comment le cerveau, lors de la relaxation profonde, invente de nouvelles méthodes pour protéger l'individu de ce qui lui fait peur. Ce que je veux dire, et c'est là que ça devient vraiment passionnant, c'est que quand on s'approche d'un traumatisme, du noyau, de ce qui est vraiment dangereux, quand le souvenir refoulé remonte enfin à la surface sous hypnose, la personne commence à se raccrocher à des choses autour d'elle, dans une dernière tentative de protéger son secret. Et, je viens de le réaliser, la personne incorpore des éléments oniriques dans ses souvenirs, juste pour éviter de devoir y faire face. « Éviter de voir la situation en elle-même ?» demanda Ronnie Johansson avec une curiosité soudaine. « Oui, enfin pas vraiment. Plutôt la personne qui est à l'origine du traumatisme, » répondis-je. « Les patients peuvent la remplacer par n'importe quoi. Souvent, c'est un animal. » Le silence s'abattit autour de la table. Je vis Annika Lorenzen, qui jusqu'alors avait surtout semblé gênée pour moi, sourire en silence. « Est-ce possible ?» demanda Ronnie Johansson. « À quel point ces schémas apparaissent-ils clairement ?» demanda Mellersted. « Ils apparaissent clairement, mais je n'ai encore rien établi de façon certaine, » répondis-je. « Y a-t-il des recherches semblables au niveau international ?» interrogea Mellersted. « Non, » répondit Ronnie Johansson abruptement. « Mais j'aimerais savoir, » dit Holstein, « si ça s'arrête là, est-ce que le patient trouvera toujours de nouveaux refuges dans l'hypnose, à votre avis ?»« Peut-on aller au-delà ?» demanda Mellersted. Je sentis mes joues s'échauffer. Je me raclai un peu la gorge et répondis « Je pense qu'il est possible de pénétrer derrière ces images par le biais d'une hypnose plus profonde. » « Et les patients dans tout ça ?»« Je pensais également à eux, » dit Mellersted à Lorenzen. « Tout ceci est évidemment très séduisant, » dit Holstein. « Mais je veux des garanties, pas de psychose, pas de suicide. »« Oui, mais vous pouvez le garantir ?» Frank Paulson jouait avec l'étiquette de la bouteille d'eau. Holstein avait l'air fatigué et regardait l'heure. « Ma priorité est d'aider les patients, » dis-je. « Et votre recherche ?»« C'est... » Je me raclai la gorge. « Elle est annexe, » dis-je à voix basse. « C'est ainsi que je dois la considérer. » Quelques hommes autour de la table de la direction échangèrent des regards. « Bonne réponse, » fit soudain Frank Paulson. « J'accorde tout mon soutien à Eric Maria Bark. »«
Je continue d'être inquiet pour les patients, » dit Holstein.
« Tout est là, » dit Frank Paulson en désignant un polycopier. « Il en parle ici, le progrès des patients, ça paraît plus que prometteur. »«
Simplement, il s'agit d'une forme de thérapie tellement inhabituelle, tellement audacieuse, que nous devons être sûrs de pouvoir la défendre si quelque chose tournait mal. » »«
Rien ne peut vraiment mal tourner, » dis-je. Je sentis des frissons parcourir mon dos. Eric, nous sommes vendredi et nous aimerions tous rentrer chez nous, dit Annika Lorenzen. Je pense que vous pouvez compter sur le renouvellement de vos subventions. Les autres acquiescèrent. Ronnie Johansson se redressa et applaudit.